VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 19h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. On commence par la politique en RCA. L'ex-président François Bozizé, actuellement en exil au Kenya, suggère l'organisation de forums de réconciliation nationale pour trouver des solutions à la crise qui secoue la République centrafricaine depuis 2003. Proposition rejetée par le pouvoir à Bangui, qui rappelle que François Bozizé fait l'objet d'une poursuite judiciaire en RCA et est en même temps sous sanction de l'ONU. Mais pour Joseph Bendouga, leader du parti d'opposition Mouvement démocratique pour la renaissance et l'évolution de Centrafrique, la présence de l'ex-président centrafricain Bozizé est souhaitable à cette assise dans la mesure où c'est un fils du pays. Les explications de M. Bendouga au micro de Félix Yepassis Zembrou.
D'abord, ce n'est pas le général Bozizé qui a été le tout premier à proposer un forum de réconciliation après la prise de fonction du président élu Faustin Archange Touadéra le 30 mars 2016. C'était le MDRC le 7 octobre. Nous avions constaté les manquements tant sur le plan politique que sur le plan sécuritaire ainsi que fiscal et douanier. Et nous avions fait 5 propositions au chef de l'État. La 5e proposition concerne une consultation nationale à la base sur la sécurité, la paix, la justice, la cohésion sociale, la réconciliation et le développement. Cette consultation à la base se terminera par une assise nationale souveraine sur la sécurité exclusivement. Parce que nous avons senti que le président de la République, une fois élu, a violé son serment et a violé ses engagements électoraux vis-à-vis du peuple centrafricain par rapport à la sécurité. Comment un État de droit peut-il exister sans qu'il y ait des forces de sécurité et de défense? Et quand nous nous sommes rendus compte que, à l'allure où vont les choses, la République centrafricaine ne s'en sortira pas, et la partition de la République centrafricaine qui est de fait, plus des 3/5 de la République centrafricaine sont occupés par les forces rebelles. Depuis que le président élu a pris ses fonctions, nous sommes à peu près à 800 morts, plus de 20 000 déplacés, plus de 6 000 centrafricains qui sont allés en exil. L'appel de Bozizé vient conforter, renforcer l'appel du MDRC, l'appel de l'archevêque. Il a même rappelé pendant la messe de Noël.
Oui, Monsieur le Président, en ce qui concerne l'ancien président François Bozizé, ces assises dont vous parlez seraient souhaitables pour François Bozizé?
Tous les Centrafricains sont appelés à débattre de leur pays, sauf si Bozizé doit répondre devant la justice. Mais à ce que je sache, Touadéra a co-géré la République centrafricaine jusque un mois et quelques jours. C'était l'accord de Libreville qui l'a relevé de ses fonctions. Si Bozizé doit aller devant la justice, mais Touadéra, premier ministre, chef du gouvernement, pendant cette période-là, doit aussi répondre de cela. Donc je ne pense pas que c'est seulement Bozizé qui doit répondre devant la justice centrafricaine. Mais Touadéra, 5 ans durant, était premier ministre de Bozizé. En ces temps-là, il y a eu l'avènement de la LRA, celle de la SELECA. Il est co-acteur de la crise centrafricaine, tant comme les chefs rebelles que Bozizé.
Joseph Bendouga, président du MDRC, le Mouvement démocratique pour la renaissance et l'évolution en Centrafrique. Au Soudan du Sud voisin, le nombre de Sud-Soudanais fuyant en Ouganda continue d'augmenter avec 7046 arrivants enregistrés le 13 décembre. Selon l'agence humanitaire des Nations Unies, OCHA, la majorité des réfugiés traversent la frontière par des points informels pour rejoindre l'Ouganda. Plus de 4000 d'entre eux se sont rendus en territoire ougandais via la République démocratique du Congo. Rappelons que des violences ont éclaté entre les forces rivales à Djouba, la capitale sud-soudanaise, au mois de juillet, forçant des milliers de personnes à chercher refuge dans les pays voisins.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Nigeria, le chef d'état-major de l'armée de terre, le lieutenant-général Tuko Buratai, a annoncé que la forêt de Sambisa, récemment reprise aux djihadistes de Boko Haram, servira désormais de centre d'entraînement à l'armée nigériane. Les précisions d'Azuma Compaoré.
Cette annonce intervient après celle, samedi dernier, du président nigérian. Muhammadu Buhari avait en effet déclaré que l'armée avait écrasé Boko Haram dans la forêt de Sambisa, l'un des derniers bastions du groupe islamiste dans le nord-est du pays. La région servira donc désormais de centre d'entraînement à l'armée et aussi de lieu d'essai des équipements militaires avant leur mise en opération. Une série d'activités y sont déjà programmées. Le général Tukur Buratai a ordonné que le championnat des armes légères de l'armée nigériane pour 2017 se tienne dans cette forêt. La reconquête de l'armée nigériane de la forêt Sambisa a suscité des réactions dans le pays. Le général Ibrahim Badamasi Babangida, ancien président militaire, a par exemple salué ce succès des militaires nigériens, affirmant que cela confirme la confiance qu'il a au fait que le président Muhammadu Buhari écrasera Boko Haram. Secte salafiste extrémiste à l'origine, Boko Haram s'est mué en mouvement djihadiste à la mort de son fondateur Mohamed Youssouf en 2009. Les violences du mouvement et leur répression ont fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés dans le nord-est du Nigeria.
En Côte d'Ivoire, multiples réactions aux déclarations de Pascal Affine Nguessan, leader d'une faction du FPI, le Front populaire ivoirien, créé par l'ex-président Laurent Gbagbo. Déclarations selon lesquelles il faut se détacher de l'image du fondateur du parti, qui constitue maintenant un handicap, selon M. Affine Nguessan. Des propos tenus après la cuisante défaite du parti aux législatives du 18 décembre. Pour 186 candidats, la faction Affine Nguessan n'a obtenu que 3 sièges. Les frondeurs du FPI qui rejettent son leadership et ont choisi, eux, le boycott. Écoutez l'analyse de Julien Gauze, une personnalité de la société civile ivoirienne, sur les déclarations d'Affine Nguessan.
Je l'aurais vu, c'est dans son autocritique et son analyse, d'abord en se remettant lui-même en cause en partie, et ensuite en dénonçant certaines insuffisances au sein du parti, avant de justifier pourquoi peut-être il prend la décision soit de rester, soit de partir. Mais alors s'il décide de partir, il faut, je pense, le dire clairement, couper les amarres et s'installer à son compte, de façon à ne pas s'aliéner toute une partie de ceux qui se reconnaissent dans le président Gbagbo. Ça s'apparente à un parricide dans ce qu'on peut considérer comme une espèce de réuniment et en même temps une invitation à tourner une page, mais alors d'une façon trop tragique peut-être, d'une façon trop brutale peut-être, d'une façon trop, je me permets de dire, un peu insultante.
Julien Gauze, président de l'ONG Agir pour la démocratie, la justice et la liberté en Côte d'Ivoire. Tunisie maintenant, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed préconise l'examen en urgence par le Parlement d'un projet de loi pénalisant le racisme suite à la manifestation d'étudiants africains à Tunis dénonçant de multiples cas d'agression. Au micro de Timothée Dounangmaï, les explications de la Djiboutienne Zamzam Mohamed, chargée des relations extérieures de l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie.
Récemment, il y a eu un acte d'agression sur 3 étudiants de nationalité congolaise. Les étudiants se sont fait poignarder pour l'un et égorger pour 2 autres. Il y a aussi eu une autre agression en plein marché sur une fille, une étudiante aussi. Nous sommes en fait scandalisés que dans la même journée, il y a eu 4 agressions et qu'un individu qui apparemment est un récidiviste. Il a déjà commis le même acte il y a quelques semaines sur une autre étudiante. Et nous sommes choqués que les autorités tunisiennes laissent un tel individu se balader sur les routes sans agir, en fait. Nous sommes scandalisés. C'est en fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dans le sens où nous autres étudiants, nous sommes victimes d'abus, que ce soit de la part de la législation, que ce soit de la part des propriétaires d'appartements, que ce soit de la part des policiers. Nous ne savons pas en fait ce qui se passe.
Quels sont les autres problèmes que vous rencontrez dans la vie de tous les jours?
Le plus gros problème, c'est le problème lié aux conditions de séjour des étudiants et stagiaires en Tunisie. Nous faisons face à des abus, notamment par rapport au dépôt des cartes de séjour. Les étudiants souffrent dans le sens où on nous demande de payer des sommes extravagantes par rapport aux cartes de séjour. Une carte de séjour qui, pour le dépôt, demandait 15 dinars il y a tout au plus 3 années et qui, aujourd'hui, on nous demande de payer 300 dinars. On ne comprend pas pourquoi.
Alors, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a appelé à l'examen en urgence par le Parlement d'un projet de loi pénalisant le racisme en Tunisie. Qu'est-ce que cela changera selon vous?
Nous espérons que ce projet de loi soit d'abord adopté parce que c'est un projet de loi qui est en suspens depuis, ça fait à présent 2 ans.
La Djiboutienne Zamzam Mohamed, chargée des relations extérieures de l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.